Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour le monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universitaire. La même heure à Dakar, Conakry et Abidjan. Bonsoir, voici les titres. La fin de la grève des enseignants en Guinée qui a paralysé l'enseignement pendant plusieurs semaines. En Sierra Leone, il y aura un second tour entre l'opposant, Mada Bio, et le candidat du pouvoir, Camara. La Grande-Bretagne donne une semaine à 23 diplomates russes pour quitter le pays. Aux États-Unis, un mois après la fusillade dans un lycée de Floride, des élèves organisent des marches à travers le pays. Dans la Minute Éco, un chemin de fer électrique est prévu entre Kigali au Rwanda et Isiaka en Tanzanie. Et ce soir, du basketball américain et la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais tout d'abord, le journal. En Guinée, après un mois de grève qui a paralysé le secteur éducatif, un accord a enfin été trouvé entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. La grève est suspendue, mais la reprise a été perturbée par une manifestation de l'opposition guinéenne qui proteste contre les résultats des élections locales du 4 février. Le point avec Zakaria Camara.
C'est au soir d'une nouvelle journée de manifestation des femmes et des élèves à Conakry que les enseignants et les représentants du gouvernement, avec à leur tête le médiateur de la République, se sont de nouveau rencontrés. Contrairement aux précédentes, la rencontre du mardi a abouti à un accord. Plusieurs points ont été acceptés par le gouvernement. Il s'agit du paiement des 30% qui reste avec effet rétroactif. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est rétabli dans ses droits. L'accord autorise l'annulation de sa suspension et le paiement de ses arriérés de salaire. Les deux parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. Concernant les salaires de base de 8 millions demandés par les enseignants, il a été décidé de la mise en place d'un comité paritaire syndicat-gouvernement en vue de l'ouverture d'un couloir de négociation à partir de début mai. La grève est suspendue, mais plusieurs écoles sont restées fermées à cause d'une manifestation à l'appel de l'opposition guinéenne. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
À Dakar, s'est ouvert aujourd'hui le procès de 32 Sénégalais soupçonnés d'activités en lien avec le terrorisme, mais le procès est renvoyé au 9 avril à la demande du parquet. Au cœur de l'affaire, un imam, Alioune Dao, soupçonné d'avoir cherché à mettre en place un réseau djihadiste dans le pays. Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par le Sénégal contre le refus de la justice française de procéder à la saisie des biens de Karim Ouad. Fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, il avait été condamné le 23 mars 2015 au Sénégal à 6 ans de prison ferme et à la confiscation de tous ses biens. Karim Ouad vit en exil au Qatar. En Sierra Leone, l'opposition arrive légèrement en tête du premier tour de l'élection présidentielle et un second tour aura lieu le 27 mars. Le candidat de l'opposition, Julius Mada Bio, est donné favori, Blanche Sanou.
La Commission électorale nationale a fixé au 27 mars le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Mada Bio, a légèrement devancé celui du parti au pouvoir, Samora Camara. Selon les résultats complets, M. Bio a obtenu 1 097 482 voix, soit 43,3%. Il devance de près de 15 000 voix le candidat du parti au pouvoir, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samora Camara. Les observateurs avait salué le bon déroulement du premier tour et la participation massive des électeurs. Le président sortant Ernest Bey Koroman ne pouvait plus se représenter après 2 mandats de 5 ans. Le bilan de son administration sortante est contrasté, même si elle est parvenue à attirer les investisseurs pour reconstruire le pays ravagé par la guerre civile. L'économie reste toujours fragile, 2 ans après l'épidémie d'Ebola et la corruption qui gangrène le pays.
En République démocratique du Congo, suite aux violences interethniques entre pygmées bantous à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, les déplacés vivent dans des conditions très précaires selon l'ONU. Ils sont plus de 15 000 installés dans 2 centres d'accueil. Au Zimbabwe, les services d'urgence des principaux hôpitaux publics ont refusé ce mercredi d'accueillir la plupart des patients à cause d'une grève de médecins qui exige une amélioration de leurs conditions de travail. Le mouvement a débuté il y a 2 semaines par un arrêt de travail de jeunes diplômés pour obtenir de meilleurs salaires et pour déplorer les pénuries de médicaments. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis février, s'est engagé mercredi à accélérer la réforme agraire destinée à redistribuer des terres de la minorité blanche au profit de la minorité noire afin de corriger les injustices. Une question toujours très sensible depuis la fin de l'apartheid. À l'île Maurice, la présidente a annoncé qu'elle ne va pas démissionner. Elle conteste les faits de corruption qui lui sont reprochés dans un scandale financier. Le point avec Yacouba Ouadréhougou.
Dans un communiqué, la présidence a déclaré qu'Amena Gourib Fakim rejette toute perspective de démission parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Madame Gourib Fakim dit être prête à aller en justice pour se défendre contre ces accusations de corruption qu'elle juge calomnieuses. Il lui est reproché d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute pour effectuer des dépenses personnelles de 25 000 euros. La présidente mauricienne a reconnu les faits, mais affirme avoir remboursé l'argent utilisé et l'ONG a confirmé le remboursement des sommes concernées. Le premier ministre Pravin Jugnauth avait annoncé vendredi que la présidente allait démissionner après les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance qui ont eu lieu lundi et avant la rentrée parlementaire le 27 mars. L'affaire implique le milliardaire angolais Alvaro Sobrinho, un homme d'affaires controversé qui finance l'ONG Planet Earth Institute.
Plus de 16 000 migrants africains qui se trouvaient dans des camps en Libye ont été rapatriés vers leur pays d'origine en janvier et février, a annoncé mardi le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Les pays de l'Union européenne durcissent le ton en direction des pays d'origine, notamment africains. Sont également concernés le Mali, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui n'acceptent pas de réadmettre sur leur sol leurs ressortissants renvoyés d'Europe pour situation irrégulière. Ces pays d'origine les moins coopératifs devront faire face à des conditions plus strictes pour obtenir des visas selon une législation proposée mercredi par la Commission européenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Theresa May a annoncé mercredi une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux. Elle estime que Moscou est coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur le sol britannique. Le point avec Bakassi Koura.
Les 23 diplomates expulsés ont une semaine pour quitter le territoire britannique. Theresa May a aussi annoncé la suspension de tous les contacts bilatéraux de haut niveau. Elle s'exprimait devant le Parlement 10 jours après l'empoisonnement à Salisbury d'un ex-espion Sergei Skripal, âgé de 66 ans, et de sa fille Yulia, 33 ans, victime d'une attaque avec un agent innervant militaire de fabrication russe. L'ambassade de Russie à Londres a aussitôt dénoncé un acte hostile, inacceptable et injustifié. Le Kremlin clame son innocence, disant qu'il n'admet pas les accusations sans preuve et les ultimatums de Londres.
Facebook a annoncé avoir supprimé la page du mouvement britannique d'extrême droite, Britain First, en raison de la publication répétée de commentaires haineux contre les minorités, notamment contre la communauté musulmane. La page est également connue pour avoir vu certains de ses tweets relayés par le président américain Donald Trump. Aux États-Unis, des dizaines de milliers d'élèves ont quitté leur salle de classe pour exiger des mesures concrètes contre les armes à feu. Claire Morin-Gibourg.
Ils étaient des centaines de collégiens et de lycéens à s'être ainsi rassemblés devant la Maison Blanche à Washington. Protéger notre avenir, pas les armes à feu, ou encore les prières, cela ne suffit pas, pouvait-on lire sur les pancartes brandies. À travers tout le pays, des élèves et des étudiants se sont réunis pour la National School Walkout, qui veut rendre hommage aux 17 victimes de la tuerie de Parkland en Floride il y a un mois. Alexander Bovee, un lycéen de 16 ans de Bethesda dans l'état du Maryland, est lui aussi venu. Il espère, comme ses camarades, faire avancer la législation sur les armes à feu, interdire les fusils d'assaut et empêcher les sénateurs et les représentants de pouvoir bénéficier de l'argent de la NRA, le lobby américain des armes. La NRA est une des cibles de la manifestation des étudiants. Les pensées et les prières n'arrêtent pas les balles, peut-on lire sur un panneau brandi par une adolescente.
Toujours aux États-Unis, l'administration Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises équivalent à 60 milliards de dollars, taxes qui viseraient notamment les secteurs de la technologie et des télécommunications, selon plusieurs médias américains. Pour finir, l'intelligence est la capacité de s'adapter au changement. C'est une citation de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui s'est éteint ce mercredi à Cambridge à l'âge de 76 ans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Nyamarikiza.
Le Rwanda et la Tanzanie ont convenu une ligne ferroviaire électrique au lieu d'un chemin de fer pour locomotive diesel en vue de relier Kigali et Isaka. Le changement de conception permettra de gagner sur le temps et les coûts de transport des passagers et marchandises. Le projet va coûter 2,5 milliards de dollars. Les réserves de change de l'Angola en 2017 ont baissé de plus de 36%, d'après la Banque nationale d'Angola, et représentent plus de 13 milliards de dollars. L'accroissement de la sortie des devises pour assurer les paiements courants du gouvernement et de la dette extérieure est à l'origine de cette situation qui frappe l'économie du pays. Pour amortir le choc, la Banque centrale a décidé de faire flotter la monnaie nationale, le kwanza. Addis Abeba et Moscou renforcent leur coopération dans les secteurs de l'énergie, le tourisme et l'éducation. Un centre de recherche sur le nucléaire sera construit en Éthiopie. Les étudiants et les diplomates éthiopiens vont bénéficier des bourses d'études pour une formation de haut niveau. Pour booster le tourisme, une ligne directe entre Moscou et Addis Abeba sera rétablie. Enfin, la Russie a promis d'annuler la dette éthiopienne de 162 millions de dollars.
Place au sport maintenant avec Nicolas Pignoux. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Les derniers huitièmes de finale, c'est ce jeudi.
Le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux match nul, un but partout, accueille Chelsea à 19h45, temps universel. Chelsea qui avait terminé la première manche frustrée par l'égalisation de Lionel Messi en fin de rencontre. L'autre match de la soirée, c'est bien évidemment le Bayern Munich face à Beşiktaş. On se souvient que les Allemands avaient sèchement battu 5-0 les Turcs, notamment grâce à deux doublés, celui de Thomas Müller et de Robert Lewandowski au match aller. A priori donc, les Munichois qui n'ont pas grand-chose à craindre sur la pelouse de Beşiktaş.
Manchester United chute en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Eh oui, mauvaise nouvelle, incapable de battre le FC Séville en deux confrontations. Le club anglais de Manchester United a été éliminé hier soir. Une défaite 2-1 à domicile, c'est une grosse désillusion pour le club entraîné par José Mourinho qui rêvait d'un meilleur destin après avoir attendu 4 ans pour revenir dans la prestigieuse compétition. C'est Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé pour les Andalous, qui a douché les espoirs des Mancuniens, qui avaient réduit le score par Romeo Lukaku. Dans l'autre rencontre de la soirée, le club italien de la Roma s'est qualifié en battant l'équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk 1-0. Le but à l'extérieur, marqué au match aller par les Romains, leur a permis de se qualifier.
Sanction pour l'étoile sportive du Sahel.
Le club tunisien qui jouera ses 3 prochaines rencontres à domicile à huis clos, c'est ce qu'a décidé la Ligue tunisienne suite aux incidents survenus dimanche lors de la réception du club africain. Il s'agit des rencontres face à Kairouan, au CO Medellin et d'un troisième match, celui en Coupe de la Tunisie selon le tirage au sort, soit au début de la saison prochaine.
Place à la NBA, championnat de basket nord-américain.
Russell Westbrook est devenu le 4e joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre le chiffre de 100 triple-double avec 32 points, 12 passes décisives et 12 rebonds lors de la victoire de son équipe à Atlanta, 119 à 107. San Antonio a retrouvé des couleurs face à Orlando, corrigé 108 à 72. Au sommet de la conférence Est, Toronto a connu une petite frayeur face à Brooklyn avant de signer sa 9e victoire de suite, 116 à 102. Et puis LeBron James et Cleveland qui ont retrouvé le sourire en écœurant Phoenix, 129 à 107.
Merci beaucoup Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, les violences interethniques en Ituri soulèvent des inquiétudes sur la tenue des élections prévues pour décembre. Le député de l'opposition, Grégoire Lusenge, met en garde le pouvoir de prendre ses violence pour prétexte en vue de reporter les élections. Eddy Isengo a interviewé Nikèze Belbel Oka, analyste et auteur d'un livre sur ces violences.
La situation n'a presque pas évolué, sinon elle a évolué négativement parce que il y a cela deux jours à déplorer encore des morts. Toutes les autorités sont là en train de trouver une solution. Donc la situation n'a pas évolué dans le sens du bon. La situation est encore préoccupante.
Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les violences interethniques reprennent alors que tout était réglé avec même l'intervention de la CPI?
Le problème n'avait pas été bien réglé parce que comme vous citez la CPI a fait un peu de rééquilibriste. On a pris dans chaque communauté une ou deux personnes, on les a amenés comme dans une sorte de quota, on les a amenés à la CPI sans pour autant chercher les racines du problème. Et les racines du problème sont restées les mêmes. C'est comme ça qu'il suffit, c'est comme un champ séché, il suffit seulement d'un mégot de cigarette et tout s'enflamme. Mais il y a aussi un autre problème. Du fait qu'on refuse de voir les vrais problèmes, tout le monde vit comme si des gens sont venus d'ailleurs pour créer l'insécurité. Parce que la situation de tout le temps, c'est toujours « Ah, il y a des gens qui viennent nous manipuler ». Mais le vrai problème, on n'a jamais résolu le problème qui est à la base, qui sont à la base des affrontements. On fait comme une sorte de pansement. Le problème est d'abord dans la cohabitation des communautés.
Mais ces violences ont lieu alors qu'il y a une présence des autorités sur place, en plus de l'armée et de la MONUSCO.
Nous sommes dans la série des guérillas rurales, des guerres asymétriques. Les forces armées de la démocratie du Congo, le casque bleu, ils viennent dans une guerre conventionnelle. Les ennemis qu'ils trouvent sur le terrain, c'est des miliciens, c'est des gens qui maîtrisent le terrain, qui ont des armes blanches, qui ont aussi des armes à feu. Mais la tactique ou la stratégie utilisée par les FARDC et la MONUSCO ne répondent pas à l'insécurité, à la violence qui est dans l'est de la RDC.
Un député, monsieur Grégoire Lusenge, met en garde, tire la sonnette d'alarme pour que ces violences ne puissent pas être servir de prétexte en vue de reporter les élections.
La violence, elle n'a rien à voir avec les élections qui vont arriver parce que cette violence, même s'il y a élection demain, cette violence ne cessera pas tant qu'on ne trouvera pas les causes, tant qu'on n'aura pas à la racine des mots. Donc cette lecture, c'est une lecture légère, c'est une lecture superficielle. Depuis les années 90, nous sommes dans la violence, notamment à l'Est. Il faut trouver des solutions. C'est vrai que la faillite de l'État contribue à créer ces zones grises, mais le problème est fondamental.
Nikèze Kibel-Beloka, éditeur du journal Le Coulisse et auteur du livre de la violence en Ituri au pillage de l'or de Kimoto Abeni.
Cette semaine, dans Washington Forum, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les partis ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des plateformes politiques qui vont se présenter, mais déjà, des candidats ont fait part de leurs ambitions présidentielles. Après plusieurs reports, le vote est prévu le 23 décembre 2018, soit deux ans après la fin théorique du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Dans l'attente de ce scrutin, les manifestations interdites persistent en dépit de la répression. Qui sont les candidats? Qui représentera le parti au pouvoir? Le calendrier électoral peut-il être respecté? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guériac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
Au moins 25 civils ont été tués en une semaine dans le centre du pays dans des affrontements intercommunautaires. La communauté Peul pointe du doigt les Dogons. Bagassikoura a joint à Mopti Mamadou Bokoum.
Actuellement, la situation se détériore en ce moment où je vous parle, puisque il y a toujours des affrontements spontanés sur des points bien précis dans le centre du Mali, notamment vers le cercle de Kourou, entre la communauté Peul et la communauté Dogon. Tout cela est dû à une altercation entre ces deux communautés qui est causée par l'incendie de quelques greniers et des cases d'un village Dogon qui s'appelle gardés dans la commune de Djungani, dans le centre de Kourou. Et en riposte, les Dogons sont partis dans les villages pour prendre leur revanche. Donc la situation est grave en ce moment. Et pour les responsables Tul, ce sont donc des armes de guerre que les dozos Dogons détiennent contre la communauté Tul. Et selon quelques responsables, ils ont été donc armés par l'État. Et du côté de l'État, on demande toutes ces allégations faites par les responsables.
Que dit le gouverneur de la région ou que dit le gouvernement?
Les allégations selon lesquelles c'est l'État qui a armé des milices avec des armes de guerre, des kalachs notamment. Et cette thèse a été démentie par le gouvernement à travers le ministre de la Sécurité. Mais le gouverneur de la région de Mopti, quand même, face à la situation, a sorti un communiqué qui précise que seules les forces de défense et sécurité maliennes ont pour mission régalienne de défendre le territoire national, celle de défendre les intérêts de la population, et bien sans considération de leur sexe, ethnie, race et religion. Par conséquent, toute personne en possession d'armes de guerre sera purement et simplement désarmée des forces et traduite en justice, poursuit le communiqué du gouverneur. Donc c'est pour vous dire combien les armes sont en train de circuler dans la région de Mopti.
Est-ce que la tension est toujours palpable?
La tension est palpable parce que du côté de Kourou, il n'y a plus de route entre Djungani et vers la frontière burkinabé. Donc les gens ont peur de partir vers ce côté. Et du côté dans le delta intérieur du Niger, dans les zones exondées, au centre, plus précisément à Kouakourou, un village non loin de Kouakourou qui s'appelle Kwa, il y a eu également des affrontements entre les Dozo et la communauté Peul là-bas, toujours pour vraiment, selon les Dozo, c'est pour défendre leurs intérêts. Donc la tension est palpable un peu partout. La tension qui a commencé vers le Séno, la zone exondée, s'est transportée actuellement dans la zone inondée, et plus précisément à Kwa. Donc il faut prendre des dispositions très rapides pour éviter le pire.
Mamadou Boukoum, notre correspondant à Mopti, au centre du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, à quelques mois des élections générales dans le pays, les jeunes veulent faire entendre leur voix. Des centaines de personnes ont manifesté à Abuja ce mercredi pour demander au président Muhammadu Buhari de signer le projet de loi qui donne l'opportunité aux jeunes de se présenter à tous les postes électifs alors que les moins de 25 ans représentent 50% de la population du Nigeria. À Abuja, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tamba.
Ils étaient plusieurs centaines de jeunes dans les rues de la capitale fédérale du Nigeria pour exiger du président nigérien Muhammadu Buhari la signature du projet de loi Notuyonturong. Ce projet adopté par le Sénat il y a quelques mois permet désormais aux jeunes de se présenter à la présidence de la République dès l'âge de 35 ans, ce qui n'est pas possible actuellement. Yetunde Bakari fait partie d'un réseau de jeunes au Nigeria.
Les piliers de la démocratie, c'est l'inclusion et la participation. Si plus de 50% de la population n'est pas impliquée dans le processus de prise de décision, ce n'est pas la démocratie. Donc je suis là avec les jeunes pour demander au président de signer le projet de loi Notuyonturong. Ce projet parle des jeunes et pour les jeunes.
Aujourd'hui, il faut 40 ans minimum pour être candidat à la magistrature suprême au Nigeria. Si les jeunes obtiennent la signature du président Muhammadu Buhari, cela signifie que les jeunes nigériens pourraient désormais se présenter à la présidence de ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi être gouverneur d'un État ou encore devenir sénateur à l'âge de 30 ans. Tom Agbo est le président du groupe du Parlement des jeunes africains.
Nous n'avions pas encore bénéficié d'une grande opportunité. Nous ne sommes pas impliqués jusqu'ici parce que nous ne parlons pas encore d'une seule voix. Le problème était jusqu'ici à notre niveau. Depuis longtemps, nous soutenons nos grands-pères, oubliant un programme qui pourrait couvrir tout le monde.
Avec l'adoption de cette réforme, des personnes âgées de 25 ans pourraient légiférer dans les assemblées nationales et étatiques à travers le pays. Malgré le niveau élevé du jeu politique dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes Nigériens se disent confiants de leur inclusion dans le processus électoral. Michael Chukwu Ebuka Okoye est membre du Conseil national de la jeunesse nigérienne.
Oui, comme nous voyons les choses, la lutte contre la corruption et le combat pour le développement, ce n'est pas seulement une lutte physique, mais il faut utiliser les connaissances. Et nous, les jeunes, nous avons la mémoire fraîche et la force pour développer le Nigeria. Je suis sûr et certain que nous sommes déterminés à faire bouger ce pays.
À ces jours, en plus du Sénat nigérian, 25 États sur les 36 qui composent le Nigeria ont adopté le projet de loi comme le demandait la Constitution du pays, avant la signature du président. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En République centrafricaine, la montée des accidents de circulation inquiète. Entre 2017 et début 2018, plus de 4000 personnes en auraient été victimes à Bangui et à l'intérieur du pays. Cette situation dramatique fait réagir les autorités centrafricaines et ses partenaires. Reportage de Freeman Sipila.
Dans les rues de Bangui, il ne se passe plus un seul jour sans qu'un accident de circulation ne soit enregistré. Ces tragédies, pour la plupart fatales, continuent d'endeuiller des familles. En dehors de la capitale, l'axe le plus réputé pour ces accidents est la route nationale numéro 2 qui mène au Cameroun. Dans la localité de Bouali, à 98 km de Bangui, la colline de Kassango a déjà pris des milliers de vies. Le dernier drame en date s'y est produit fin février et a occasionné 12 morts. Ces accidents sont dus à majorité aux excès de vitesse, aux surcharges et au non-respect des règles de conduite. Ce que déplore Robert Yamou, sous-préfet de Boali.
Je vous donne un cas très récent de ce qui s'est passé à Boali où il y a eu des cas de mort horribles à voir. Un véhicule grand châssis en provenance du Cameroun a eu à charger des sacs de ciment et sur le haut des gens arrivés à Kassango à la descente. Il y a eu prise d'air, il y a eu surcharge. Qu'est-ce que le chauffeur a fait ? Prise d'air, surcharge, et le chauffeur tranquillement partait. A pris l'attention, il a eu un choc, il est parti. Les gens étaient dans les ravins, des têtes coupées, des ceci, des cela.
En l'absence des bus de transport en commun sur les axes hors de la capitale, les passagers sont obligés de grimper sur des gros camions de transport de marchandises. Conséquence de cette pratique, un nombre élevé de morts pendant les accidents. Le gouvernement mis en cause promet des solutions dans les jours à venir. Ange-Maxime Kazagui, son porte-parole.
Le pays, dans sa situation actuelle, en tant que pays, n'a pas réussi à mettre en place un système de transport public des personnes. Même les pays qui se portent bien, aujourd'hui, dans la plupart des pays en Afrique, le transport public des personnes par des sociétés d'État n'a fait que faillir. Je sais depuis quelques jours qu'il y a des discussions avec des partenaires privés qui, en partenariat public-privé, souhaiteraient mettre en place des sociétés de transport public.
Pour réduire la fréquence de ces drames, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a lancé le 5 mars une vaste campagne de sensibilisation et de formation sur le code de la route à Bangui. L'opération cible les conducteurs de taxis, taxis-motos et bus, ainsi que les élèves. Hervé Verroussel, directeur de communication à la MINUSCA.
La seconde phase de la campagne permettra de former ou de sensibiliser plus de 1000 conducteurs de taxis-motos, 750 conducteurs de taxis et bus dans les 8 arrondissements et les 2 communes de Bangui. Comme je vous l'ai dit, la MINUSCA en profitera pour organiser une campagne interne. Pour ce qui est des écoliers, car ils sont très exposés aux accidents de la circulation et surtout à la sortie des écoles, il sera organisé des sensibilisations dans 25 écoles de Bangui.
En 2017, plus de 4000 accidents de circulation, dont plus de 2500 impliquant les mototaxis, ont été recensés à Bangui et dans certaines villes de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Léonard Georges Sagno. À la console, Sidrac Franklin. Et Kabadou à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente soirée à vous et bonne suite de programme.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.